100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Qui sont les nouveaux pères? Nous les avons rencontrés en Allemagne et au Royaume-Uni, plus disponibles et sans doute aussi plus libres dans leurs relations avec leurs enfants. À réécouter aussi dans Accent d'Europe aujourd'hui, la spiritualité en prison. Un sacré pari que relèvent les derviches tourneurs dans un établissement pénitentiaire d'Istanbul. Et puis Copenhague, capitale verte 2014, visite d'une brasserie zéro émission aujourd'hui. Les nouveaux pères existent et nous les avons rencontrés en Allemagne. Signe que les changements de mentalité touchent le sommet, le vice-chancelier ministre de l'économie et de l'énergie de la nouvelle coalition, Sigmar Gabriel, va consacrer tous ses mercredis après-midi à sa petite fille Marie, âgée de 3 ans. Un choix qui est aussi un acte militant pour le président du Parti social-démocrate, alors que le gouvernement songe à proposer la semaine de 32 heures aux parents de jeunes enfants. Les nouveaux pères, c'est le reportage à Berlin de Julien Méchaussier.
Dimanche midi dans la famille Schröder, alors que la maman lit le journal dans la cuisine, le papa, Kilian, est occupé à jouer dans le salon avec Anton, son fils d'un an.
Le week-end, j'essaie de profiter au maximum de mon fils, de jouer avec lui. Et la relation est très différente de celle de la semaine, quand je rentre du travail et que je ne dispose que d'une petite heure avec le petit avant de le mettre au lit. Alors oui, le fait de penser que je vais avoir bientôt 4 jours d'affilée avec lui, cela me rend vraiment heureux.
Kilian va prendre son congé parental pendant 2 mois. Il ne travaillera que 21 heures par semaine avec à la clé un week-end de 4 jours. Un compromis pour ce jeune père de 29 ans, infographiste et principale source de revenus de la famille. Comme 30% des nouveaux pères allemands, il a décidé de lever le pied pour profiter de son enfant.
Oui, c'est difficile quand je suis au travail. Je me demande tout le temps ce que je suis en train de rater. Il y a bien sûr aussi des jours où je me dis que c'est plus calme au bureau qu'à la maison, où je suis content d'avoir du temps pour moi, mais la plupart du temps, je suis jaloux de ma femme qui, elle, profite de tout le temps avec notre enfant.
Mise en place en 2007, c'est une loi qui est venue bousculer la répartition traditionnelle des rôles père-mère, avec l'introduction un salaire parental pour chacun des deux parents. Cette allocation équivaut à 2/3 du salaire et peut être perçue pendant 12 à 14 mois ou aménagée en temps partiel. Et c'est l'État qui passe à la caisse et non pas l'employeur. Pour Svenja Pfahl, sociologue du travail et experte de la relation travail-famille, la décision de Sigmar Gabriel est bien la manifestation d'un changement.
On ne peut pas encore affirmer que ce soit une tendance générale, mais je pense en effet qu'il y a un signe. Un nombre croissant de pères s'aperçoit que concilier vie familiale et vie professionnelle est quelque chose d'enrichissant. Des pères qui comprennent qu'ils ont la possibilité de passer du temps avec leurs enfants, de profiter de leur famille, avec en arrière-plan la volonté de ne pas laisser cette tâche uniquement à la mère, et l'envie de s'impliquer dans la vie de famille.
Mais il n'est pas toujours facile pour ces pères de s'occuper à plein temps du jour au lendemain des enfants. Père de Lene et Noah, deux petites filles d'un an et 3 ans, Paul Lambeck est architecte. Habitué à des semaines de 60 heures de travail, il vient de passer 8 mois à la maison pour permettre à sa femme de reprendre ses études. Et les premiers jours n'ont pas été de tout repos.
Coucher les filles le soir était au début très compliqué. Je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. Les nœuds se mettaient à pleurer, puis c'était au tour de Noah. Et après, toutes les deux en même temps. Tout ça, chacune dans leur chambre. Et puis finalement, au bout de quelques semaines, j'ai trouvé la solution. Nous avons dormi tous les trois dans le même lit.
Paul a repris le travail il y a un mois, un changement qui a été difficile à vivre.
Au départ, les enfants n'ont pas compris ce qu'il se passait. Le matin, nous avons eu des scènes d'adieu particulièrement déchirantes. Maintenant, ça va mieux. Et puis, j'ai travaillé aussi la nuit. La reprise a été dure. J'aime mon travail, mais je remarque que le temps passé en famille me manque énormément.
Zeit mit der Familie fehlt einfach.
Ces pères d'un nouveau genre doivent cependant faire face à de nombreuses interrogations, comme le démontrent les différentes études menées par Svenja Pfahl.
Ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent. Ça aura-t-il des conséquences négatives sur ma carrière? Est-ce que j'aurai des difficultés quand je recommencerai à travailler? Comment puis-je expliquer à mon chef que prendre un congé parental, c'est important pour moi? Mais bien que ces peurs soient au départ très fortes, nos enquêtes ont démontré que pour plus de 80% des pères, ces peurs n'avaient pas de raison d'être.
Et la politique familiale allemande tente d'emboîter le pas à cette nouvelle tendance qui traverse tous les milieux sociaux. La ministre de la Famille a ainsi annoncé vouloir permettre aux jeunes parents de passer à une semaine de 32 heures.
Et en Angleterre aussi, les pères changent et ils s'organisent pour pouponner entre mecs. Des dizaines de dads clubs, des clubs pour papa, ont vu le jour au cours des dernières années. La recette, jouer avec les enfants, sans s'interdire de regarder un bon match de foot ou de rugby. À Londres, Marie Billon.
Match de foot à la télé ou dinette. Le choix des papas est parfois cornélien. Les pères modernes veulent passer plus de temps avec leurs enfants, mais n'ont pas non plus envie de s'oublier dans la paternité. Et comme les Britanniques croient beaucoup à l'adage « Happy parents, happy children », comprenez, des parents heureux font des enfants heureux, il fallait trouver une solution, en l'occurrence les Dads Club. Il en existe déjà des dizaines, à Londres notamment. Comme leur nom l'indique, ce sont des clubs réservés aux papas et à leurs enfants. Ces messieurs se réunissent dans un pub privatisé pour l'occasion, plus pour l'ambiance que pour la bière, bien sûr, ou dans une salle prêtée par la mairie, et pouponne entre mecs. La plupart des hommes n'ont pas l'impression d'avoir besoin de parler de leur progéniture, mais non seulement ils restent, mais ce sont de vraies pipelettes, plaisante l'organisateur du Lamplight Fathers Group. Beaucoup d'hommes inscrits dans ces Dads Club expliquent qu'ils se sentent jugés et scrutés quand ils sont entourés de mamans. Les femmes trouveraient toujours un peu suspect qu'un homme veuille pouponner, alors les papas britanniques préfèrent l'entre-soi, et ce serait bien pour les pères et pour les enfants. Les petits passent de bons moments avec leur papa détendu et rencontrent de nouveaux camarades. Et le week-end, les Dads Club sont là pour offrir l'équilibre parfait entre le match diffusé à la télé et le pouponnage. Un œil sur l'écran et un œil sur les petits qui jouent ensemble. Ceux et celles qui pensent que les hommes ne peuvent pas faire les deux en même temps n'ont qu'à venir au Dads Club et autres Dads Café. Mais comme certains nouveaux papas ne pouponnent pas que le week-end, parce qu'ils ont quitté leur emploi ou travaillent à mi-temps par exemple, plusieurs clubs accueillent les papas et leurs petits deux matinées par semaine. Les nouveaux papas ne sont pas des papas du dimanche.
Spiritualité et mysticisme, deux termes qu'on associe généralement peu au mot prison. En Turquie pourtant, un établissement pénitentiaire d'Istanbul a voulu initier un groupe de détenus au mysticisme des derviches tourneurs. La pensée du poète mystique Mevlana les a aidés à commencer un travail sur soi et à tenter d'oublier les barreaux le temps d'une méditation en mouvement. Ce projet pourrait inspirer d'autres prisons. C'est le reportage d'Anne Andlauer.
Dans une épaisse fumée blanche et la lumière profuse d'une rangée de fenêtres, 17 hommes marchent en rang. Ils portent un manteau noir sur une jupe immaculée, une toque en feutre brun et de forme allongée. Après un long rituel, une série de prosternations, ils croisent les mains sur la poitrine et commencent à tourner, tourner sur le sol vert de ce terrain de basket, dans cette prison d'Istanbul, où ils purgent une peine. Une vingtaine des 940 détenus du centre pénitentiaire d'Umranié ont fait connaissance avec Mevlana, grand penseur mystique, fondateur il y a 700 ans de l'ordre des derviches tourneurs. Chaque semaine, pendant 3 fois 2 heures, ils ont appris la vie et la philosophie de celui qu'on appelle Rumi et les secrets de cette cérémonie connue sous le nom de Sema. Tamer, incarcéré depuis 7 ans, s'étonne du chemin parcouru ces derniers mois.
Jamais je n'aurais cru en arriver là. Au début, je me disais que je n'arriverais jamais à tourner aussi longtemps, qu'il me faudrait prendre des médicaments comme ceux qu'on prend dans les avions. Aujourd'hui, moi et tous les co-détenus qui ont participé à la formation, nous tournons 45 minutes sans aucune difficulté. Les premiers temps ont été difficiles, mais notre formateur nous a bien expliqué la technique et surtout, il nous a fait prendre conscience de toute la dimension spirituelle de ce geste.
Tourner sur soi et autour de la piste, au son du ney et du tambour, une main vers le ciel et l'autre vers la terre. Les derviches s'abandonnent à Dieu, ils s'approchent de lui en tournant, explique Murat Zahid Gürsoy, le formateur.
La main droite vers le ciel sert à transmettre aux hommes. Via la main gauche tournée vers la terre, ce qu'ils reçoivent de Dieu, la justice, la morale, l'amour. Mevlana est un penseur universel. Il n'appartient pas qu'aux musulmans. Il porte un message pour tous. Il peut être un exemple pour tous. Chrétiens, juifs, tout le monde. Ces détenus ont fait un travail sur eux-mêmes. En quelques mois, ils ont énormément changé.
Comme presque tous les Turcs, ces détenus connaissaient le nom de Mevlana, mais rarement ce qu'il prône. Certains nourrissaient même une méfiance à son égard. C'était le cas d'Ismet.
Avant, j'avais des préjugés. Je considérais les derviches comme une secte. C'est en comprenant Mevlana, sa philosophie, la tolérance, l'amour, que j'ai brisé mes préjugés. L'univers carcéral est particulièrement adapté à cet apprentissage. L'atmosphère y est pesante, fermée, stressante. Parfois, on ne la supporte plus. Mais quand nous faisons le SEMA, comment dire, c'est comme faire du yoga. On se détend en tournant, on reçoit une énergie positive. Je suis toujours très joyeux quand je sors de ma cellule pour aller au SEMA et après le SEMA.
Mehmet Chetak, le directeur de la prison, dit avoir toujours cru aux effets bénéfiques de cette formation.
L'idée nous est venue il y a un an et demi. Nous avions invité un groupe de derviches pour le présenter aux détenus. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas le faire nous-mêmes avec les détenus? C'est une première dans une prison en Turquie et dans le monde. Nous en sommes fiers. Je dois aussi reconnaître que cette formation nous facilite la tâche. Chez les détenus participants, plus de bagarres, plus de disputes. Ils se concentrent sur l'apprentissage.
Dans cette prison d'Istanbul, l'expérience va donc se poursuivre avec d'autres détenus avant, peut-être, de s'étendre ailleurs en Turquie, derrière d'autres barreaux. Hikmet, enfermé depuis 3 ans, assure derrière ses grands yeux clairs que Mevlana a changé sa vie.
Quand nous revêtons l'habit de derviche, nous oublions que nous sommes des prisonniers. Nous ne sommes ni détenus, ni ouvriers. Nous sommes des êtres humains, emplis de paix, d'amour de Dieu et des autres. La phrase la plus connue de Mevlana est « Viens, qui que tu sois, viens, qui que tu sois et quoi que tu aies fait ». N'en sommes-nous pas les meilleurs exemples? Nous avons tous été condamnés. Aucun de nous n'est innocent. Mais ici, nous nous sommes réveillés, nous avons réalisé nos erreurs. En tournant, nous revenons à Dieu, nous revenons de nos erreurs.
Ce jour-là, la cérémonie est d'autant plus particulière que les prisonniers ont eu le droit d'inviter leur famille. À l'image de Sabahat, une 50aine de mères, d'épouses, de frères et sœurs, d'enfants ou de petits-enfants assistent au SEMA. Sabahat ne quitte pas des yeux son fils en tenue de derviche.
Je suis très heureuse. Ça fait des mois qu'il me parle de cette expérience. Mon fils était déjà quelqu'un de pieux, mais désormais je le vois beaucoup plus heureux. Je suis très émue et très fière.
À la fin de la cérémonie, une autre surprise attend les proches des détenus. Ils ont le droit de rester ensemble pendant une petite heure dans cette salle baignée de lumière. Il y a des pleurs, des sourires et beaucoup de photos, et même quelques enfants qui, visiblement impressionnés, se sont mis à tourner, tourner et tourner encore.
Nørrebro Bryghus er et bryggeri, der både
sælger. Et on sort à Copenhague, la capitale danoise, capitale verte pour l'année 2014, ne manque pas d'initiatives. Dernière en date, une brasserie zéro émission carbone qu'a visité pour nous Sungshim Courrier.
C'est un endroit bien connu des amateurs de bonne bière à Copenhague, la brasserie de Nørrebro, où l'on produit de la bière de qualité dans une approche écologique, le tout dans une atmosphère très détendue. Poussez la porte de cette brasserie et vous vous retrouverez nez à nez avec une dizaine de grandes cuves chromées. Bien qu'elles soient tout à fait intégrées dans le décor, ne croyez pas qu'elles ne sont là que par souci d'esthétisme, car c'est avant tout pour leur précieux contenu qu'on se presse à la Nørrebro Brewhouse. Le ronronnement des pompes et l'architecture authentique de l'endroit ajoutent un petit quelque chose à l'expérience. Kasper Juhl Larsen a été surnommé par les médias danois rien de moins que l'ambassadeur de la bière au Danemark, car ce jeune entrepreneur est amoureux de son métier. Mais il a aussi les pieds sur terre. Quand on lui parle de la bière zéro émission de CO2, il n'a pas peur de dire que l'idée est née d'une manière peu romantique. Il s'agissait avant tout d'économiser de l'argent sur sa facture d'électricité. Quelques simples changements dans sa manière de consommer l'énergie lui ont permis d'épargner près de 15% sur sa facture au bout de 6 mois. Aujourd'hui, il a encore amélioré le système et fait grimper cette économie à 20%. La Neurobrobroukous veille aussi à utiliser un maximum de produits locaux et de produits bio. L'aventure de cette brasserie a commencé il y a 10 ans, alors que Casper était encore un étudiant, mais l'ambition et les idées novatrices de ce passionné lui ont permis de se hisser parmi les experts de la boisson préférée des Danois. Qu'elle soit bio, zéro émission ou écolo, le plus important pour les habitués des lieux, c'est que la bière soit bonne. Alors, skål. Hush, little baby, it's only rock and roll, and rock and roll is good for your soul. C'est européen, c'est musical et c'est la chronique de Vincent Teval.
Samaris, c'est un trio de musiciens islandais qui s'est formé en 2011 à Reykjavik et qui s'est rapidement fait remarquer avec deux maxis publiés à quelques mois d'intervalle, soit une poignée de chansons assez étonnantes par leur instrumentation d'abord, mélange de rythmique électronique et de clarinette, et puis par leurs paroles qui sont des adaptations de poèmes islandais du 19e siècle. Les morceaux de Samaris baignent dans une atmosphère éthérée marquée par un goût pour le minimalisme, les mélodies et les voix pâles. À découvrir sur les deux disques aujourd'hui disponibles, l'un réunit leurs deux maxi et l'autre est un album à part entière, Hioma, d'où est extrait du premier.
Merci de nous être fidèles. Accent d'Europe, c'est aussi sur le site de RFI et sur Facebook.